Cette semaine, nous avons célébré le jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et nous savons qu'il est retourné auprès du Père et qu'il est en train de nous préparer une place. C'est ce qu'il nous a dit dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il nous a dit qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de mon Père et que si cela n'était pas vrai, il ne nous l'aurait pas dit. Il a dit aussi que lorsqu'il s'en serait allé et qu'il nous aurait préparé une place, eh bien, il reviendrait nous prendre avec lui afin que là où il est, eh bien, nous y soyons aussi. Et si Jésus vient bientôt, qu'est-ce que cela signifie pour moi et qu'est-ce que cela signifie pour vous de savoir que Jésus revient bientôt? Alors, dans Titre chapitre 2, Paul nous rappelle qu'il nous faut vivre dans la lumière de la bienheureuse espérance qui est la nôtre. On va lire ensemble les versets 11 à 15. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à une vie mauvaise et aux convoitises mondaines, et à vivre dans ce monde une vie conforme à celle que Dieu demande, juste et fidèle à Dieu, en attendant la bienheureuse espérance. C'est-à-dire, la bienheureuse espérance, c'est quoi? C'est l'heureux jour que nous espérons voir de notre vivant, c'est-à-dire voir Jésus revenir avec tous ceux qui lui appartiennent et nous prendre vivants, nous transformer en un clin d'œil pour que nous puissions régner avec lui pour l'éternité. Voilà, ça c'est la bienheureuse espérance des chrétiens. Parce que ce jour-là, Dieu, eh bien, apparaîtra dans toute sa gloire à travers la personne de Jésus-Christ. Lui qui s'est donné lui-même pour nous, écrit-il, Paul continue-t-il, afin de nous racheter de toute iniquité. C'est-à-dire, quand on parle de racheter de toute iniquité, c'est-à-dire de nous délivrer de toute forme de mal, et faire de nous un peuple purifié par lui, qui soit zélé pour accomplir des œuvres bonnes. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons célébré il y a quelque temps, Seigneur, ta mort sur la croix qui nous a permis, Seigneur, d'être réconciliés avec le Père. Nous nous sommes aussi, Seigneur, rappelés quelques jours plus tard, Seigneur, le jour de cette résurrection qui nous a rappelés que tu avais vaincu la mort et que tu promets, Seigneur, à tous ceux qui ont placé leur confiance en toi, eh bien, que tu les ramèneras aussi un jour de la mort à la vie, afin de les faire régner avec toi dans ton royaume. Et je dis, Seigneur, nous nous sommes rappelés que tu étais monté. Monté, Seigneur, nous préparer une place et qu'un jour, eh bien, tu reviendras aussi nous chercher. Seigneur, nous voulons vraiment nous en remettre à toi ce matin, afin que tu puisses, Seigneur, parler à nos cœurs. Tu connais ce que chacun a besoin, Seigneur, d'entendre, de recevoir ce matin. Nous te prions, Seigneur, non seulement que nos oreilles soient ouvertes à l'écoute de ta parole, mais que nos cœurs aussi soient ouverts et réceptifs à changer les choses, s'il y a des choses qui doivent être changées. Et Seigneur, à te glorifier, à t'adorer, si tel doit en être le cas. Tout cela, c'est dans le beau nom de Jésus que nous te prions. Amen. Il y a de nombreuses années, un sous-marin coula dans les eaux profondes de l'Atlantique, près des côtes du Massachusetts. De nombreux navires arrivèrent à la rescousse afin de faire quelque chose pour sauver les membres de l'équipage. Sur les lieux de l'accident, eh bien, un plongeur se rendit jusqu'au sous-marin, et sur place, il va coller son oreille contre la coque du sous-marin, et il va capter un message de détresse envoyé en morse qui venait de l'intérieur du sous-marin. Le plongeur qui connaissait le morse, eh bien, déchiffra le message qui disait « Y a-t-il de l'espoir? » C'est ce que le monde veut savoir, y a-t-il de l'espoir? Pour certains, il n'y a plus d'espoir. Comme quelqu'un l'a dit, on dirait que nous regardons le monde comme à travers le trou d'un canon d'une arme chargée à bloc. Un autre a dit que le désespoir, c'est le mot le plus triste qui puisse exister dans la langue des êtres humains. Cependant, pour d'autres, il y a de l'espoir, mais c'est un faux espoir. Quelqu'un a dit « Il n'y a pas de faux espoir plus grand que les 4 premières heures de celui qui a décidé de suivre un régime. » Pour beaucoup de gens, il y a de l'espoir, mais c'est un faux espoir. Pour d'autres, il y a de l'espoir, mais c'est un espoir incertain, c'est un espoir qui n'est pas assuré, parce que c'est quelque chose sur lequel ils ne peuvent s'appuyer avec certitude. Mais dans ce passage que nous venons de lire ici ce matin, Paul parle de la seconde venue de Jésus. Il parle de cette glorieuse apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et il appelle cet événement une bienheureuse espérance. Et j'espère que c'est votre espérance la plus chère aujourd'hui, que dans cette génération, eh bien, le Seigneur Jésus puisse revenir pour mettre fin à toute cette misère, à tous ces désespérés de ce monde, transformer, eh bien, changer, transformer, bouleverser ce monde afin de créer une nouvelle terre et un nouveau ciel où tous ceux qui lui appartiennent passeront l'éternité. Qu'est-ce que le mot espérance signifie dans la Bible? Eh bien, il ne signifie pas peut-être, ou s'il est possible que, comme c'est souvent le cas aujourd'hui lorsque nous disons « j'espère que », mais le mot espérance dans la Bible signifie une certitude et non pas être plus ou moins certain. Il signifie que c'est une certitude qui est basée sur la parole de Dieu et qui signifie anticiper avec certitude. Et j'espère que ce matin, vous anticipez la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce mot signifie quelque chose que je suis certain qu'il va arriver. Je suis certain avec certitude que cela va arriver parce que je m'appuie sur la parole de Dieu qui est la parole de vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est que la seconde venue de Jésus-Christ est non seulement une certitude, mais une bienheureuse espérance, une glorieuse espérance. Jésus revient bientôt, c'est-à-dire qu'il peut revenir à tout moment. Et frères et sœurs, vous pouvez anticiper son retour. Amen. Ouais. Qu'est-ce que la foi? C'est être sûr de ce que l'on espère dans le futur. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Et on a parlé encore à l'étude biblique mercredi que si Dieu n'a pas décidé de nous révéler toutes choses, eh bien, c'est pour une simple raison, c'est pour qu'on puisse pratiquer notre foi. Si Dieu nous avait tout révélé, si Dieu nous avait montré dans un magnifique film tout ce qui se passe, ce qui va se passer là-haut, tout ce qui nous attend pour le futur, à quel jour le Seigneur Jésus va revenir, on peut être certain d'une chose, c'est qu'on n'aurait pas besoin de foi. La foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, nous dit que c'est être sûr de ce que l'on espère dans le futur et c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas pour un chrétien, c'est être convaincu que ce que Dieu dit, c'est la vérité, et on s'appuie sur ce que la parole nous dit. Combien devons-nous alors vivre dans ces derniers temps? J'aimerais partager ce matin ce que cette bienheureuse espérance, devrait susciter en moi et en vous. Cette espérance, elle nous invite à avoir un cœur pur, à vivre avec un cœur pur. Verset 12. Lisons le verset 12 ensemble. « Elle nous enseigne, dit l'apôtre Paul, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce monde selon la sagesse, la justice et la piété. » Maintenant, voyez, pour ceux qui ont leur Bible, voyez ce que j'en dis dans sa première épître, au chapitre 3, les versets 2 et 3. Jean, chapitre 1, première épître de Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et quel privilège béni, n'est-ce pas, frères et sœurs, de savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Cependant, ce que nous sommes, ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Il est en train de nous dire que ça signifie que Dieu n'a pas encore fini son œuvre, d'accomplir son œuvre à chacun de nous. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que nous deviendrons. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, eh bien, nous deviendrons semblables à lui. Frères et sœurs, je ne sais pas à quoi va ressembler mon corps ressuscité, mais il sera semblable au corps glorifié que Jésus avait après sa résurrection. Et ça, c'est une nouvelle réjouissante. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous ne savons pas ce que nous serons, dit l'apôtre Paul, mais nous savons que nous deviendrons semblables à la personne de Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et frères et sœurs, ça c'est extraordinaire. Pour le voir tel qu'il est, nous devons être rendus semblables à lui. Nous devons posséder le même corps que le sien. Il avait un corps glorifié par sa résurrection. Dieu dit qu'il va transformer toutes choses et qu'il nous donnera aussi un corps glorifié. C'est extraordinaire, non? Un corps dans lequel nous allons habiter pour l'éternité. Merveilleux. C'est pas un corps mortel, c'est un corps immortel. On vit dans un corps qui est corruptible, nous dit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Maintenant, dans le futur, Dieu va nous donner un corps qui est incorruptible. Un corps qui ne meurt pas, un corps qui ne vieillit pas, un corps dont la maladie ne peut pas l'atteindre. C'est pas ça à quoi on aspire tous. Ah oui, hein? Ah oui. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'hôpitaux. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de cimetière. Parce que les gens ne seront plus malades. Parce que les gens ne mourront plus. La mort, le diable et les pécheurs ont été détruits pour l'éternité. Quelle nouvelle réjouissante! Quelle nouvelle réjouissante! Par conséquent, remarquez ce que Jean dit au verset 3. « Quiconque a cette espérance se purifie en lui comme lui-même est pur. » Que feriez-vous, frères et sœurs, si vous aviez la certitude, c'est-à-dire une totale certitude, que dans 5 heures, vous vous retrouveriez face à face avec le Seigneur Jésus? Que feriez-vous? Je pense savoir ce que vous feriez. Vous vous assureriez que votre vie est en règle avec Dieu, n'est-ce pas? Que feriez-vous si vous saviez que vous allez voir le Seigneur Jésus, que vous allez rencontrer votre Sauveur bien-aimé dans 5 heures? Si vous avez de l'animosité envers quelqu'un et si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, enfin, si vous pratiquez dans votre vie ce que vous savez être contraire à la volonté de Dieu, comment réagiriez-vous si vous saviez que vous allez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans 15 minutes? Frères et sœurs, nous ne savons pas à quel moment Jésus revient. Nous ne le savons pas et Jean nous dit que si nous avons cette espérance en lui, nous allons nous purifier, nous allons faire un ménage dans nos vies parce que si nous perdons de vue que Jésus revient bientôt, nous risquons de vivre autrement que ce que Dieu nous demande de vivre. L'idée d'avoir continuellement en tête ce retour de Jésus nous rappelle constamment que c'est vrai qu'on a été justifié, mais qu'on doit marcher dans la sanctification. Et celui qui perd de vue cette notion que non seulement Jésus est mort pour lui, qu'il est ressuscité, mais qu'il revient, souvent se laisse aller dans sa vie. Mais qu'à chaque fois qu'on pense que Jésus revient, quand on dit Jésus revient bientôt, c'est à n'importe quel moment. Je suis en train de vous parler, il peut revenir dans 5 minutes. On peut se voir aujourd'hui, dans 3 jours, le Seigneur est revenu. C'est terminé. Mais le fait de vivre en fonction du retour de Jésus dans notre génération, eh bien, ça nous invite à être constamment prêts lorsque notre Sauveur bien-aimé reviendra chercher les siens. Il y a quelques années, en Nouvelle-Angleterre, les autorités avaient décidé de construire un immense barrage afin de produire de l'électricité. Mais à l'endroit où le barrage devait être construit, il y avait un petit village avec de jolies petites maisons que le gouvernement avait décidé d'acheter dans le but de les démolir parce qu'il y aurait une telle quantité d'eau qui sortirait du barrage que la vallée serait inondée et que les maisons seraient englouties à tout jamais. Ils informèrent donc les gens tout en leur disant qu'ils n'étaient pas encore prêts à entreprendre des travaux pour construire le barrage et que cela engendrerait un certain nombre d'années. Alors les gens ont signé l'entente entre eux et le gouvernement à l'effet qu'ils céderaient leurs maisons aux autorités moyennant un certain montant d'argent, on appelle ça être exproprié en bon français, et de son côté, le gouvernement leur permettait de demeurer dans leur maison jusqu'au moment où les travaux commenceraient. Je vous ai dit que c'était un beau petit village, mais à partir du moment où l'entente a été signée entre les deux parties, les choses vont commencer à se détériorer. Les gens ne réparaient plus leur maison. Les gens n'entretenaient plus leur terrain. Bref, ils ne faisaient plus rien de ce qu'un propriétaire fait habituellement pour garder sa maison en bonne condition. Et ce qui fut autrefois un magnifique village, habité par des gens réputés si fiers, était devenu un véritable dépotoir à ciel ouvert. Les gens continuent à vivre à cet endroit jusqu'à ce qu'on leur demande de partir. Quelqu'un a posé la question, comment expliquer leur comportement? Et voici la réponse qu'il a reçue. Là où il n'y a plus d'espérance pour l'avenir, là où il n'y a pas d'espérance pour l'avenir, il n'y a aucune œuvre qui est entreprise dans l'immédiat pour conserver le futur. Ça donnait quoi, en fait, aux gens d'entretenir leur maison alors qu'ils savaient qu'un jour, tôt ou tard, elle serait démolie, leur maison. Ça leur donnait quoi de commencer à mettre de l'herbicide pour empêcher les pissenlits de pousser dans leur gazon alors qu'ils savaient que tôt ou tard, on inonderait la vallée. Il y aurait de l'eau, des mètres d'eau qui inonderaient la vallée. Si les gens ont une espérance, si les gens peuvent voir qu'il y a quelque chose de prometteur pour l'avenir, alors ils vont s'investir dès maintenant en vue de ce futur. Frères et sœurs, c'est exactement ce que ce monde a compris. C'est pour ça que dès l'enfance, on invite les enfants à être ambitieux dans la vie. C'est l'ambition qui permet aux gens de ce monde qui vivent sans espérance de vivre et d'avoir des projets pour le futur. C'est l'ambition qui permet à un athée de vivre en bon citoyen, de continuer, de poursuivre, d'avoir des ambitions personnelles, des ambitions professionnelles. C'est l'ambition qui pousse les gens de ce monde qui sont sans espérance à produire pour le futur. Et l'ambition, elle produit quoi, finalement? Eh bien, c'est tu changes d'échelle sociale, tu peux acquérir des biens, et ainsi de suite. Chers amis, vous et moi, nous avons une espérance dans l'avenir. Par conséquent, nous sommes appelés à être prêts en tout temps pour la seconde venue de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous citer un autre verset dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Est-ce que vous savez que nous allons être épargnés lorsque Jésus viendra, mais que certains auront honte? Si Jésus-Christ devrait revenir maintenant, à ce moment même, certains qui font partie de l'Église diraient « Alléluia! » tandis que d'autres voudront se retrouver au fond de la mer, honteux de leur façon de vivre. Voilà pourquoi Jean dit ici « Mes petits-enfants, demeurez unis au Christ, afin que nous soyons pleins d'assurance lorsqu'il paraîtra et que nous ne soyons pas couverts de honte. » C'est pas moi qui le dis, hein? Je vous ai cité un verset. « Ne soyons pas couverts de honte et être éloignés de lui le jour où il viendra. Quiconque a cette espérance en Christ se rend pur comme Jésus-Christ est pur. » Mercredi aussi à l'étude biblique, on a rappelé que la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, on se rappelle qu'au tout début, le texte nous dit que les dix étaient remplis d'huile. Dans la parole, l'huile, ça symbolise le Saint-Esprit. Les 10 étaient remplis du Saint-Esprit. Il y en a 5 qui n'ont pas surveillé leur vie. Et lorsqu'ils se sont présentés à la porte, et ça signifie le retour de Jésus, Jésus leur a dit, « Désolé. Désolé. » Et celle qui leur restait un peu d'huile, celle qui avait encore le Saint-Esprit en elle, le Seigneur leur a ouvert la porte. Jean, la première épître de Jean, ce n'est pas une épître qui est populaire, c'est une épître qui est très tranchante, mais c'est une épître qui nous rappelle que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Si le salut est gratuit, eh bien la vie chrétienne, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas facile, mais qu'on a le Seigneur ressuscité qui est avec nous, qui est en nous et qui est là pour nous aider à avancer, à progresser dans notre marche au quotidien. Et ça, c'est magnifique. Les gens du monde n'ont personne. Ils doivent s'appuyer sur leur orgueil, ils doivent s'appuyer sur leur propre capacité pour être capable d'avancer, pour éviter d'être écrasé. Mais nous, on a le Seigneur qui est là pour nous aider. On a le Seigneur sur lequel on peut compter sur ses promesses pour progresser dans notre vie chrétienne. Et on a besoin d'être prêt en tout temps. Le pasteur Adrian Rogers raconte que lorsqu'il était tout jeune, sa famille vivait à West Palm Beach, où son père travaillait comme garde-côte pour l'État de la Floride. Il raconte qu'il arrivait que son père s'absentait pendant plusieurs jours de la maison à cause de son travail. Et avant de quitter la maison, dit-il, mon père me donnait ses instructions. Adrien, n'oublie pas de faire ceci, n'oublie pas de faire cela. Et surtout d'obéir à ta mère. Quelquefois j'écoutais et à d'autres moments je n'écoutais pas, dit-il. Mais je peux vous dire que cela faisait une différence énorme lorsque je faisais tout ce que mon père m'avait demandé. Car lorsque j'entendais le son de sa voiture, une vieille Ford modèle A 1931. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ce modèle-là. C'est le fameux modèle avec les ailes en avant où il y avait un marchepied. Alors voilà, son père avait ce modèle-là. Et qu'il voyait son père tourner le coin de la rue, il courait pour monter sur le marchepied de la voiture, un peu comme on voit dans les films de gangsters. Vous savez, hein, il s'accroche après la voiture avec la mitraillette, puis on mitraille tout le monde. Mais lui, il n'y avait pas de mitraillette, mais il se tenait après, il montait sur le marchepied, sur le côté de son père, et puis... Il se tenait là, il était content parce qu'il avait obéi à tout ce que son père lui a demandé et il savait qu'il ne serait pas verbalisé ou qu'il ne serait pas mis en pénitence. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Bien là, il serrait son père. Il était content d'embrasser son père. Il était tout joyeux de retrouver son père parce qu'il avait fait exactement ce que son père lui demandait. Alors, à cause de son attitude aussi, bien l'attitude qu'il avait vis-à-vis de son père savait que son fils avait obéi à ce qu'il lui avait demandé. Alors, il dit, « Quel moment merveilleux c'était pour moi de monter sur ce marchepied à côté de mon papa. Je passais ma tête à travers la fenêtre de la voiture et je l'embrassais. » Mais il m'arrivait aussi quelquefois, lorsque j'entendais la Ford modèle A, de changer de direction, parce que je savais que j'avais désobéi aux instructions qu'il m'avait laissées. Il était toujours mon père, mais je le voyais différemment. Chers amis, lorsque Jésus reviendra, je ne prendrai pas une autre direction pour l'éviter, parce que je n'aurai pas honte de le rencontrer face à face. Et vous? Voilà pourquoi Jean dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Frères et sœurs, le fait de garder nos cœurs purs, nos pensées fixées sur la venue prochaine de Jésus, constitue une espérance qui nous pousse à vivre le cœur purifié de tout ce qui s'anime. Permettez-moi de vous partager une deuxième chose de ce que cette bienheureuse espérance du retour de Jésus devrait susciter en moi et en vous. Elle devrait nous encourager à persévérer même quand tout va mal. Amen. Vous ne marcherez pas la tête entre les deux jambes parce que les choses ne vont pas comme vous le voudriez. Pourquoi? Parce que vous savez que le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Paul dit dans Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, en parlant de Jésus, « Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités, le pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire dans ce passage? Il est en train de nous dire qu'il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu, qu'il a tout créé, que la création est maintenue en place grâce à sa toute-puissance. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer avec l'omniscience de Dieu. Les trois choses principales, l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu, on ne peut pas jouer avec ça. Si on joue avec l'omniscience de Dieu, eh bien, on remet en doute que Dieu est au courant de toutes choses, avant, maintenant et pour le futur. Et que Dieu, à travers ça, que Dieu peut être déstabilisé, être pris de court dans les événements de ce monde. Dieu connaît toutes choses avant d'avoir créé le monde, avant d'avoir créé l'univers, avant d'avoir créé le monde invisible, les créatures invisibles, c'est-à-dire les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, et tous ces êtres spirituels. Dieu savait d'avance toutes choses, il connaît toutes choses d'avance, il sait ce qui s'en vient, il sait ce qui se prépare. Mais Dieu, frères et sœurs, ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est de notre côté puisqu'on est ses enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, que ce monde et l'univers tout entier avec sa complexité sont apparus par hasard et que tout s'est parfaitement mis en place par une chance inouïe? Est-ce que vous croyez qu'à partir de rien et que par un pur hasard, la vie organique est apparue? Est-ce que vous croyez cela? Alors, je suis d'accord avec... est-ce que c'est Ralph Chalice qui a dit ça? Oui. Hein? Ça prend beaucoup plus de foi pour être athée que pour croire en la parole de Dieu. Ce que j'ai déjà dit à mon dermato, hein, je vous avais raconté. Hein. J'aurais dû lui dire avant qu'il me passe le scalpel, mais il m'avait dit sur la table d'opération, « Je sais que vous êtes curé. » Je dis, « Non, je ne suis pas curé. Je suis pasteur. »« Ah, c'est pas grave, moi je suis athée. » Alors, j'ai lancé tout de suite. Hein. « Ah, docteur, il faut beaucoup de foi pour être athée. Beaucoup plus que pour croire. » Mais je l'ai vu avec son scalpel, mais là, il devait m'enlever un morceau ici comme une pièce de 2 euros. Là. Bon, j'ai pu trouver le livre. Finalement, il faut beaucoup de foi pour être athée. Je lui en ai remis une copie. Il est jeune. Il a beaucoup d'argent. Hein? Sa femme est anesthésiste, donc je pense qu'ils ne doivent pas manquer d'argent. Pour lui, il y a tout l'avenir devant lui, mais avant, il se contentait de signer mon papier, c'est l'argent rentrait. Quand je suis allé le voir, c'était de l'argent de plus, mais maintenant, il prend du temps avec moi. Il y en a pour son argent, quoi. Hein? Ouais. Écoutez, au prix qu'on paye, on a quand même droit à un minimum de 3/4 d'heure avec le médecin, non? Alors, il me donne du temps maintenant. Et je vois qu'il cherche les excuses pour me garder dans son bureau. Ouais. Frères et sœurs, on a une espérance vivante. Jésus revient bientôt. Le monde vit dans un désordre inimaginable aujourd'hui. Les gens suivent ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place et qui ne réglera aucun problème auquel notre monde doit faire face. Vous ouvrez la TV, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pas juste aux États-Unis que les gens sont dans la rue en train de se plaindre. C'est pas juste au Canada que les gens sont en train de se plaindre. Mais c'est partout. Non seulement dans les pays développés, dans les pays en voie de développement, mais dans les pays sous-développés. Frères et sœurs, je veux dire, comme un pasteur a dit, on est assis sur une bombe. Sur une bombe. Et pourtant, le Seigneur nous a avertis, ce ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Ce ne sera pas encore la fin. Gardons nos yeux fixés sur la parole pour ne pas partir comme des poules sans tête et s'énerver, parce qu'on voit ces choses arriver. Les Belges sont les champions de consommateurs de tranquillisants avec les Français dans le monde. Si les gens sont découragés, désespérés. Et on a le meilleur médicament à leur offrir, le Seigneur Jésus-Christ. On a le meilleur psychologue à leur présenter, la personne de Jésus-Christ. On a le meilleur thérapeute à lui présenter, la personne de Jésus-Christ. Qui délivre, qui délivre. Quand j'écoute le témoignage de Marie-Claire, quel témoignage percutant! Elle est allée à la source de celui qui délivre. Elle était esclave. Elle n'a pas fait confiance aux hommes, elle a fait confiance à celui seul qui pouvait la délivrer. Et elle a hâte de rendre témoignage à chaque fois de ce que Christ a fait dans sa vie et qu'il continue à faire dans sa vie. Ouais. Frères et sœurs, on a le meilleur médecin au monde, qu'on puisse ne pas être gêné pour le présenter. C.S. Lewis a dit, vous ne pouvez pas faire une bonne omelette sans œufs, et ce peu importe la recette que vous utilisez. Dieu est celui qui règne sur cet univers et rien n'échappe à son contrôle. Il y a trois choses principales qui ne vont pas dans ce monde aujourd'hui. Voilà pourquoi il est tellement encourageant de savoir que lorsque Jésus reviendra, ces trois choses qui ne vont pas dans ce monde aujourd'hui vont se mettre en place et vont fonctionner. Premièrement, la mariée n'appartient pas encore à l'époux, parce que le Seigneur n'est pas revenu. Mais lorsqu'il reviendra, eh bien, elle sera entièrement à son époux. Qui est l'époux? C'est l'Église. Qui est l'époux? C'est le Seigneur Jésus. Et lorsque Jésus reviendra, l'époux sera conduite vers l'époux pour le rencontrer. Mais arrivé à 14 ans ici dans l'Église, à plusieurs reprises, de célébrer des mariages. Je me tiens ici en avant, hein, je suis là en avant, et puis bon, j'attends que le marié, bien, il s'avance. Hein. C'est toujours le jeune homme qui s'avance, hein. Je m'aperçois en vieillissant que le mariage, finalement, c'est beaucoup plus un événement pour la femme que pour l'homme. Hein. Alors, la femme, et on attend, la mariée, c'est le clou de la journée. Hein. C'est vrai. Maintenant, on leur doit bien ça, parce que les femmes, honnêtement, leur mariage, c'est un projet de toute une vie. Déjà, quand elles ont une poupée dans les mains, là, toute petite, à 3-4 ans, déjà, elles commencent à rêver, quoi, à préparer ce futur. L'homme, lui, ben, hein, on sait ce qu'on est, hein. On voit une femme, tape un clin d'œil. Ouais. On pense qu'on s'en va à la pêche, mais je peux vous dire une chose, en vieillissant, je m'aperçois que c'est les femmes qui pêchent très, très bien, beaucoup mieux que nous. Hein? Ouais. Quand une femme a décidé de marier un homme, quand une femme a décidé d'avoir un homme, quand elle est convaincue dans son cœur que c'est le sien, eh bien, l'homme, il sent le piège, il sent les filets autour de lui, hein? ça commence à serrer. Hein? Mathilde m'a donné un bon témoignage concernant comment elle est allée chercher Léon. Hein? Créer Léon, hein? Il s'est fait prendre. C'est la volonté du Seigneur. Les deux se sont unis par les liens du mariage. Ils ont vécu un beau mariage. Et aujourd'hui, bien, ils sont tous les deux malades. Je vous invite à prier pour Léon maintenant, qui est de plus en plus malade et qui doit assumer la tâche de s'occuper d'une femme qui fait de l'Alzheimer et qui progresse dans sa maladie. Mais Léon a passé proche de mourir il y a quelques mois. On vous l'avait annoncé. Donc, je vous invite à prier pour lui. Il a maintenant deux anges artificiels, il a maintenant un pacemaker, il a fait un infarct. Donc, je vous invite à prier pour ce couple. Parce que ce qui le préoccupe, c'est que quand il est malade, il doit rentrer à l'hôpital, mais qui doit s'occuper de sa femme à la maison? Mais rendons grâce à Dieu aussi d'avoir la santé, mais surtout la santé spirituelle. Alors, je me tiens ici en avant, et puis qu'est-ce que je vois? Je vois d'abord l'époux qui s'approche. Je jette un coup d'œil vers l'épouse, je garde toujours un œil vers l'épouse, qui se tient à l'entrée, qui attend son mari, attend que son mari ait pris place. En avant de son siège. Et puis, je vois l'épouse qui s'avance en marchant dans l'allée à la rencontre de son époux. Et je dois vous dire que je n'ai jamais vu une épouse qui était laide ou horrible à voir ce jour-là. Elles sont toutes belles. Vous êtes amen à ça, les femmes. Ah oui, les femmes, allez-y un peu, là. Hein? Vous êtes amen à ça ce matin. Hein? Le jour de votre mariage, en principe, c'est le jour où vous êtes les plus belles. Et vous êtes la plus belle lors de la cérémonie. Puis là, la voici qui continue à avancer pour venir se placer juste à côté de son mari. Ils ne font plus qu'un. Quelle bénédiction! N'est-ce pas? Chers amis, le Seigneur Jésus a utilisé cette image du mariage pour nous faire comprendre comment cela se passera lorsque nous le rencontrerons. Il nous demande de nous préparer à le rencontrer. Ce qui ne va pas dans le monde aujourd'hui, c'est que l'épouse n'est pas encore réunie avec son époux. Mais un de ces jours, il y aura un mariage qui se fera. Réjouissons-nous, dit Jean dans Apocalypse, réjouissons-nous. Soyons heureux, car les noces de l'agneau approchent à grands pas. Heureux ceux qui auront été invités aux noces de l'agneau. Amen. Et cette invitation-là, ce n'est pas un bête carton qu'on vous donne. Cette invitation-là, elle est gravée dans votre cœur. Je suis un enfant de Dieu. J'ai accès à toutes les promesses de Dieu, dont celui de manger à sa table, avec Noé, avec Abraham, avec tous ceux qui nous ont précédés, qui ont marché par la foi. Amen. La parole, elle nous dit, heureux, heureux êtes-vous. J'ai hâte de voir Adam. Je pense qu'on aura des choses à lui dire, non? On aura tout oublié, tout ça. Hein? Ouais. Et rendons grâce à Dieu qu'il a été miséricordieux avec Adam et Ève. Qu'il a manifesté sa grâce à partir des premiers chapitres de la Genèse, parce qu'il leur avait dit, le jour où vous en mangerez, le texte hébreu est clair, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. À partir du moment où ils ont désobéi, non seulement ils sont morts spirituellement, non seulement ils sont morts éternellement, mais ils sont morts physiquement, et ils ont commencé à devenir mortels physiquement. Mais Dieu aurait pu dire, c'est terminé ces deux-là. Il a dit, vous mourrez certainement. Mais dans sa grâce, Dieu va offrir le premier sacrifice. C'est lui qui va les couvrir. Il y aura du sang qui aura été versé. Et ça nous rappelle que cette bête qui a été immolée, elle était innocente. Et que ça prenait un innocent pour mourir pour des coupables. Ça prenait un innocent pour verser son sang pour des coupables. Quelle belle image dans Genèse! Quelle belle image! Et on le voit à travers toute la loi aussi de Moïse. Il y a deux choses, il y a une deuxième chose qui ne va pas dans ce monde et qui va changer au moment que Christ reviendra. Il y a un meurtrier qui n'a pas encore été emprisonné. Qui est ce criminel? Il s'appelle Satan. Il ne dit jamais que le diable est en enfer. Il ne s'y trouve pas encore, frères et sœurs. Moi, ça me fait rire quand il y a des gens, ça marche sur Internet, là, hein? Des gens qui sont branchés, non pas sur le salut, mais ce qui peut se passer en enfer. Et là, vous avez des titres. J'ai passé 25 minutes en enfer. Bien, ça, c'est de la pure menterie, hein? Ça va en encontre de la parole, hein? Parce que la parole a dit que le jour que tu vas aller en enfer, même la visiter, tu vas y rester, quoi. Il n'y a personne qui sort de l'enfer. Et si vous lisez les Écritures, il n'y a personne encore qui est en enfer. Et les gens accrochent après ces choses-là. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, il y a des gens qui stimulent leur foi ou leur soi-disant foi à lire ces choses-là. Mais c'est du spectaculaire et les gens accrochent. Mais quand on lit les Écritures, quand on connaît les Écritures, il n'y a personne qui est en enfer. Et il n'y a personne qui peut y aller, il n'en sortira jamais. Ça, c'est la Bible est claire pour ça. Même pas en tant que visiteur. Il n'y a pas de visiteur en enfer. Il n'y a que des locataires. Et ils vont loger là pour l'éternité, c'est ce que la parole nous dit. L'enfer est préparé pour le diable et les démons, et Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 20, 10, que le diable qui séduisait les nations sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et vous pouvez être certain qu'il y sera. La raison pour laquelle nous avons tellement de problèmes aujourd'hui, c'est que ce criminel est toujours en liberté et qu'il fait des ravages, mais pas pour longtemps encore, parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Il y a une troisième chose qui ne va pas dans ce monde et qui va changer au moment où Christ reviendra. Le roi n'est pas encore assis sur son trône. Le roi Jésus. Mais lorsqu'il reviendra, il prendra la place qui lui revient. Je sais qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu, mais je parle ici concernant ce qui ne va pas sur cette terre. Combien de fois avez-vous fait cette prière, frères et sœurs, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel? Combien de fois vous avez fait cette prière? Avez-vous déjà fait cette prière? Oui. J'en suis convaincu. Que ton règne vienne sur la terre comme il est dans le ciel. Permettez-moi de vous citer un de mes versets favoris, c'est dans 1 Timothée chapitre 6, verset 15. Où Paul dit en parlant de Jésus que ce royaume, il le manifestera en son temps, lui le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quelle espérance encourageante de savoir qu'un jour, la mariée sera avec l'époux. Quelle espérance encourageante de savoir qu'un jour, le criminel sera jeté en prison. Quelle espérance encourageante de savoir que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, un jour sera assis définitivement sur son trône. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour moi? Qu'est-ce que tout cela veut dire pour vous, frères et sœurs? Chers amis, nous devons avoir un grand sourire sur notre visage, car notre roi Jésus est en route. Il est en route. Je viens bientôt, dit-il dans Apocalypse. Nous ne sommes pas en train d'attendre pour savoir qui va remporter la victoire. Christ a vaincu Satan au Golgotha. Et il revient bientôt pour gouverner et pour régner. Frères et sœurs, la mère des fils de Zébédée a demandé à Jésus s'il pouvait s'asseoir à sa droite ou à sa gauche. Eh bien, quand vous lisez Apocalypse, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, le Seigneur nous dit qu'on sera assis sur son trône. Pas à côté, sur son trône. C'est pas extraordinaire, ça. C'est pas, Seigneur, fais-moi une petite place à côté de toi. Non, le Seigneur, on règne avec lui. On est appelé à régner avec lui. Et la Bible nous dit à travers l'apôtre Paul que tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, il a fait de nous ses co-héritiers. Alors, tout ce que Dieu a donné à Jésus, ça nous appartient. C'est merveilleux quand on regarde ça. Quelle belle promesse! Et le diable veut qu'on s'accroche à l'extérieur avec des belles maisons, des belles voitures, des belles robes, des beaux vêtements, une belle mode. On a raison de dire comme Paul, on devrait dire comme Paul, tout ça, je ne vois ça que comme de la boue. De la boue. De la boue, dit Paul. Pour moi, c'est de la boue maintenant, ça. J'aime mieux construire sur quelque chose qui est maintenant solide. Et c'est sur la personne, les promesses que le Seigneur Jésus nous a faites. Le prochain retour de Jésus est une espérance qui nous pousse à garder un cœur pur. Il nous pousse aussi à être une source d'encouragement pour nous et finalement à vivre unis ensemble en Christ. Cette espérance nous encourage à vivre les uns pour les autres. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12 et 13. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Dieu veut que notre amour augmente, non seulement les uns pour les autres, mais pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, dit Paul. Qu'il affermisse vos cœurs, c'est-à-dire qu'il vous fortifie pour que vous viviez dans la sainteté, que vous soyez irréprochables devant Dieu notre Père, quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints, c'est-à-dire avec tous ceux qui lui appartiennent. Paul relie ou lit la seconde venue de Jésus avec la sainteté et l'amour pour tous les saints. Ainsi, si nous savons qu'il vient bientôt, nous devons vivre en étroite communion les uns avec les autres. Comme le dit si bien l'apôtre Paul aux chrétiens de l'Église de Thessalonique, croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns pour les autres. Imaginez la scène. C'est quelque chose de fictif que je vous raconte. Vous vous dirigez vers votre domicile et vous vous trouvez en présence d'un père, d'une mère et de plusieurs enfants. Ils ont le visage rouge comme une tomate. Ils se crient des noms. Ils se donnent des coups dans la figure et ils se tirent les cheveux. Vous assistez à une véritable querelle de famille. Vous les suivez jusqu'à leur domicile en vous demandant ce qui se passe et pourquoi les membres d'une même famille sont à couteau tiré les uns envers les autres. Vous frappez à la porte pour leur demander ce qui se passe. Ils répondent, « Notre frère aîné William est absent de la maison depuis de nombreuses années. » Nous venons de recevoir un email de lui disant qu'il revient et nous sommes réunis pour planifier son retour. Alors vous lui dites, mais pourquoi faire tant d'histoires? Eh bien, répond un membre de la famille, nous ne sommes pas d'accord sur la façon qu'il va revenir. Suzanne, notre sœur, dit qu'il va arriver en voiture. Jacques dit qu'il va arriver en train. Notre père dit qu'il va arriver en avion. Et ma mère dit qu'il ne viendra pas tout seul, qu'il sera accompagné de quelques amis. Et d'autres encore dans la famille disent qu'il viendra seul. Nous sommes incapables de nous mettre d'accord sur les détails de sa venue. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre. Et au même moment, vous voyez la porte qui s'ouvre. Et voilà qu'apparaît dans l'encadrement de la porte William, le frère aîné, pendant que toute la famille se dispute sur sa venue. Frères et sœurs, est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? Certains disent que Jésus reviendra avant les tribulations. D'autres disent qu'il reviendra pendant les tribulations. Et d'autres encore pensent qu'il reviendra après les tribulations. Ce qui compte, bien aimé, ce n'est pas de savoir si Jésus vient avant, pendant ou après les tribulations, mais d'être prêt lorsqu'il viendra chercher les siens. Frères et sœurs, il y a tellement d'opinions différentes concernant ces choses. Il y a tellement de détails dans la Bible qu'il n'y a personne qui peut comprendre parfaitement toutes les prophéties qui parlent du retour de notre frère aîné, Seigneur Jésus. Et lorsque nous gardons cela en mémoire, nous sommes encouragés à nous aimer les uns les autres. Cela signifie que plus nous nous approchons de la seconde venue de Christ, plus nous devons nous approcher les uns les autres, plus nous devons nous aimer les uns les autres, et plus nous devons nous réunir ensemble dans la maison de Dieu, Vous dites, pasteur, je n'ai pas besoin de fréquenter une église pour être chrétien. C'est vrai. C'est vrai. Vous pouvez être sauvé n'importe où. Mais si vous aimez Jésus, vous allez aimer ce que Jésus aime. Et Jésus aime l'église. Jésus est mort pour son église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce sont les gens qui se rassemblent ensemble. Des gens qui ont la même espérance et qui attendent ensuite, qui attendent ensemble le retour de Jésus-Christ. Amen. Ouais. Comment on sait qu'on aime les frères et sœurs en Christ? C'est qu'à chaque occasion qu'on a de les rencontrer, eh bien, on participe. On essaie de les rencontrer. Pourquoi il y a des gens qui viennent le dimanche, qui ne viennent pas trois dimanches de suite? Pourquoi il y a des gens qui viennent quand ça leur tente? Pourquoi il y a des gens, quand il y a de la visite à la maison, ils décident de ne pas venir le dimanche matin parce qu'ils ont de la visite à la maison? Et que quand tu les appelles pour savoir ce qui va, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben on dit non, mais je devais préparer le dîner. Mes parents venaient nous visiter. Ben, je vais m'arrêter là-dessus. Frères et sœurs, quand on aime les frères et sœurs, on essaie le plus souvent possible de les rencontrer. Cette espérance que nous avons est une espérance qui nous pousse à garder un cœur pur. Cette espérance est aussi une source d'encouragement. Cette espérance nous invite à vivre dans un esprit d'unité. Cette espérance, elle nous met au défi. Quel est ce défi? De gagner des âmes. La philosophie des églises libérales, c'est que les gens qui viennent à l'église se sentent bien. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Une église n'a pas pignon sur rue pour que les gens se sentent bien. Une église a pignon sur rue pour que Jésus-Christ soit présenté aux gens qui y entrent dans ce lieu et qu'ils puissent être sauvés par la grâce de Dieu de leurs péchés et avoir cette espérance vivante de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Ça, c'est le rôle de l'église. Il y a en mouille des ONG, il y a en mouille des ASBL qui travaillent uniquement dans le but de faire en sorte que les gens se sentent bien. Mais ce n'est pas le rôle de l'Église. Amen. Ouais. Et c'est pour ça qu'au fil des années, on dilue le message. On le dilue. À tel point que je parlais avec un groupe de pasteurs cette semaine, qu'on voit maintenant les mêmes péchés dans l'Église qu'on voit à l'extérieur. Les mêmes. Parce que le message de l'Église, dans beaucoup d'Églises, ressemble étrangement à celui du monde. Parce qu'on passe, un message, pardon, pour que les gens se sentent bien. Mais ce n'est pas le but de l'Église. Vous pensez que Jésus est mort pour que les gens se sentent bien? Honnêtement, ça serait ridicule que Dieu envoyait Jésus mourir sur une croix pour que les gens se sentent bien. C'est qu'ils puissent avoir la certitude qu'uniquement à travers lui, ils peuvent recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir la vie éternelle à travers la résurrection et espérer avoir cette espérance vivante qu'il revient bientôt. Mais Christ n'est pas mort pour que les gens se sentent bien. C'est une hérésie évangélique, ça. Il est mort pour que vous receviez l'amour que vous n'avez jamais reçu. Il est mort pour vous libérer des blessures du passé. Il est mort pour vous libérer des abus qu'on a causés dans votre vie. Moi, je ne vous raconterai pas ma vie. Hein. Je suis un handicapé, moi, à ce niveau-là. Hein. Vient d'un milieu ouvrier criminalisé. J'ai été abusé de tous les côtés. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été délivré en Jésus-Christ. Pas besoin de béquilles. Sinon, ça ferait longtemps que dans le monde, j'aurais tué du monde. C'est une des raisons pourquoi j'ai quitté la police. Ras-le-bol de toute l'injustice que je voyais dans ce monde. Frères et sœurs, on a un Dieu merveilleux, un sauveur merveilleux. Et je répète ce que Wesley disait, le privilège du chrétien, c'est la délivrance du péché, c'est la délivrance sur les abus. Le problème, on n'est pas délivré des abus, pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de pardonner. Tout commence par le pardon. On n'est pas capable. Et tant aussi longtemps qu'on n'est pas capable de pardonner, on se voit comme une victime. Et là, on est cuit, ça tourne. Et là, plus tu brasses, plus ça sent mauvais, hein? Dit le dicton, hein? Oui, hein? C'est ça que ça fait. Le Seigneur, c'est avec son sang qu'il nettoie. Il lave. C'est extraordinaire. On a besoin de présenter ce message, frères et sœurs. Amen. Bon, j'achève. Oui, le défi de proclamer ce message de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire une autre chose, une dernière chose sur cette espérance, qui ne nous met pas seulement au défi, mais qui nous invite à affermir notre cœur. Jacques, chapitre 5, verset 8. « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'événement du Seigneur est proche. » Frères et sœurs, soyez fidèles, ne soufflez pas le chaud et le froid. Jacques dit, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Soyez fidèles, frères et sœurs, notre roi, le roi des rois est en route. Il est en route. Cette espérance n'est pas seulement une espérance qui nous met au défi. Cette espérance, elle ne nous invite pas seulement à nous affermir dans notre foi, mais elle est un sujet de réconfort pour nos âmes. Amen. Je vais vous envoyer celui qui va vous réconforter, pardon, qui va vous consoler. Est-ce que le Saint-Esprit console vos âmes? Vous savez comment il nous console? Il nous parle, hein, à travers sa parole. Le Dieu de toute consolation, nous dit la parole. Pas de quelque consolation, de toute consolation. Je le répète, à la croix, on voit que le pardon de Dieu, hein? Le pardon de Dieu à travers Jésus-Christ. Mais à la croix, il y a toujours un échange qui se passe. Tantôt, on parlait de douceur dans une prière. Vous êtes colérique? Apportez-la. Seigneur, je te confesse que je suis colérique. Je te demande pardon, je suis colérique, je veux m'en débarrasser, je n'y arrive pas. Mais en Jésus-Christ, je sais que tu as la capacité de m'en débarrasser. Seigneur, en retour, inonde-moi de ta douceur. Le problème, c'est qu'on laisse notre colère là, puis on repart. Ben oui, mais au bout de deux jours, ça commence à fumer encore. Hein? Ça boucane des oreilles, ça boucane par le nez, ça boucane de partout. Hein? Mais il y a un échange. Il y a toujours un échange à la croix. Hein? Toujours, toujours. Et ça, on a besoin de comprendre ça. La croix ne se limite pas uniquement au pardon des péchés. Il a pris sur lui vos meurtrissures. Il a pris sur lui vos blessures du passé. Vous aviez mis votre confiance dans quelqu'un qui vous marierait, vous avez fait des promesses, il vous a trompé, il vous a trahi, il vous a laissé tomber. Venez apporter ça ici. Dis, Seigneur, je viens t'apporter cette blessure qui n'est pas encore fermée. Quelqu'un m'a trompé, quelqu'un a abusé de moi, abusé de ma confiance. Et je viens te présenter ça parce que je sais que toi, tu n'es pas un abuseur, mais que tu es un guérisseur, que tu es un consolateur. Et Seigneur, je veux que tu me réconfortes dans mon âme. Guéris cette blessure. Et frères et sœurs, le point dénominateur pour que ça se passe, il faut être né de nouveau. Né de nouveau. Pas un chrétien de nom, un chrétien de cœur. Être capable de dire, écoute, même si je suis né dans une église chrétienne, je suis capable de déterminer le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, parce que ce jour fut un miracle dans ma vie. Fut un miracle dans ma vie. On est là aujourd'hui, on entend des « j'étais un ancien drogué, j'ai tué trois personnes, j'étais un ancien alcoolique, j'ai bu comme ça, oui. » Mais écoutez, de dire « je suis un enfant de Dieu. » Et aujourd'hui, je viens vous dire que moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais que je peux raconter que c'est passé un miracle dans ma vie. Je suis né dans l'Église. J'ai été élevé dans l'Église. J'ai fait l'école du dimanche, le groupe de jeunes, les études bibliques. J'ai assisté régulièrement au culte du dimanche. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais un chrétien de nom, que je n'étais pas né de nouveau. Et j'ai fait une rencontre un jour extraordinaire. J'ai rencontré personnellement Jésus-Christ, le ressuscité. Un miracle s'est produit dans ma vie. Il habite maintenant en moi par son esprit. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot « nouvelle », là, ça fait référence à la nouvelle naissance. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il dit c'est complètement sauté d'avoir mis ce verset-là dans Romains. Mais il faut que tu sois né de nouveau pour que ce passage soit une réalité dans ta vie. Sinon, tu te dis ça n'a pas de sens qu'il soit là. Amen. Ah, frères et sœurs, quelle espérance bénie nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous raconte une petite histoire en terminant. Robert Jeanney, qui a été pasteur de nombreuses années aux États-Unis, racontait cette histoire très émouvante. Il raconte que tout jeune, sa famille vivait sur une ferme. « Nous étions tellement pauvres, dit-il, que nous arrivions à peine à manger à notre faim et à payer le prêt pour la ferme. Je me tenais devant le porche de la maison et tout le monde était parti travailler dans les champs. Je regardais ma mère travailler et je voyais ses mains qui étaient usées et blessées par les durs travaux qu'elle accomplissait. C'est alors que je lui ai posé la question suivante. « Maman, dis-moi, quelle a été la plus belle journée de ta vie? » Il dit, je croyais qu'elle me répondrait que c'était l'époque où mon père lui avait déclaré son amour à la porte du jardin. Mais elle ne répondit pas. Il dit, je croyais qu'elle me répondrait que c'est l'époque où, dans l'encadrement de la porte, il la demanda en mariage. Mais elle ne répondit pas. Finalement, elle me dit, fiston, tu me poses là une question difficile. Mais je vais te dire ce que je crois avoir été la plus belle journée de ma vie. Elle me raconta que lorsqu'elle était encore toute petite, son père s'était engagé comme soldat dans la guerre qui opposait les États du Nord avec les États du Sud, hein, la guerre de sécession aux États-Unis. Elle continue en disant, « Nous sommes demeurés à la maison. Les femmes travaillaient durement dans les champs et nous avions juste de quoi vivre. » Puis un jour, ma mère reçut une lettre que ton grand-père, c'est-à-dire mon père, qu'il avait été tué à la guerre. Je me rappelle que lorsque ma mère a pris la nouvelle, eh bien, elle n'avait pas beaucoup pleuré. Je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour elle et elle m'avait répondu qu'elle voulait simplement aller se reposer et écouter son cœur sangloter. J'avais le cœur brisé de savoir que le cœur de ma mère était triste. Elle ajouta, puis un jour, alors que nous étions assis sur le porche, devant la maison, en train d'éplucher des haricots, ma mère vit au loin un homme qui marchait dans les champs en direction de la maison. Elle me dit, « Élisabeth, regarde cet homme qui s'approche de la maison, c'est ton père! » Puis elle continue à éplucher les haricots. Quelques instants après, elle dit, « Élisabeth, regarde cet homme qui s'approche, il marche comme ton papa! » Là-dessus, je lui répondis, « Maman, maman, arrête de te torturer, papa est mort. Ça fait des mois qu'il est mort. » Mais lorsque l'homme arriva tout près de la maison, ma mère lança les haricots dans les airs en disant, « Élisabeth, c'est ton papa! » Il avait perdu un bras et sa manche pendait le long de son pantalon. Il dit, « Ma mère se mit à courir et sauta au cou de mon père. » Elle l'embrassa plusieurs reprises un peu partout sur le visage et il mit son seul bras qui lui restait autour de son corps en la serrant très fort contre lui. Quand j'ai compris que c'était mon papa, je me suis mis à courir le plus vite possible avec mes petites jambes et arrivé près de lui, j'ai mis mes mains autour de ses genoux en l'embrassant tout en essayant d'atteindre sa manche de chemise, celle qui lui manquait son bras. « Fiston, je crois que ce fut le plus beau jour de ma vie, dit-elle. » Chers amis, le Seigneur Jésus n'est pas mort. Il est vivant et il revient bientôt. Gardez vos yeux fixés vers le ciel, parce que c'est de cet endroit qu'il arrivera avec tous ceux qui lui appartiennent. Réconfortez-vous par ces paroles, dit l'apôtre Paul. Ne portez pas vos regards vers le trou que l'on creuse pour enterrer quelqu'un, mais tendez plutôt l'oreille, parce que lorsque la trompette sonnera, ce sera le signe que nous allons commencer à régner pour l'éternité avec notre Sauveur et le Créateur, la personne de Jésus-Christ. Vivons donc dans la lumière, dans la bienheureuse espérance, dans cette lumière de la bienheureuse espérance qui est la nôtre en Jésus-Christ, frères et sœurs. Gardons nos yeux fixés là-haut où Jésus-Christ reviendra chercher les siens. Amen. Je vous invite à vous lever.